sommes dans des temps importants et j'aimerais qu'on mette la première diapo. C'est le titre, c'est « Au cœur d'un conflit ». Et Antoine a commencé à parler de la route d'Ésaïe, Ésaïe 19. Et donc, le but de ce message, eh bien, c'est que nous puissions discerner les temps. Nous sommes en plein dedans, les amis. Nous puissions comprendre les événements et que nous puissions agir en conséquence. Hein. Vous voyez, il y avait une onction qui était sur une tribu, c'est la tribu d'Issacar. Elle discernait les temps de Dieu et elle savait ce qu'il fallait faire. Et combien, Seigneur, nous venons maintenant, alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur, nous renversons toutes sortes de forteresses. Seigneur, tu vois tout ce que nous entendons sur les médias, tout cela. Seigneur, nos cœurs sont troublés, mais nos cœurs aussi sont confiants. Et merci parce que tu envoies un esprit de sagesse, de révélation, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, le premier point que j'aimerais aborder, c'est la notion de connaître la fin. Est-ce que vous connaissez la fin de l'histoire ? Amen. Antoine, là, je dirais, là, a commencé. Hein. Et lorsqu'on parle d'apocalypse, on a tout le temps cette notion des événements apocalyptiques. Hein, la catastrophe, tous ces chaos, effondrements, tous ces dérèglements climatiques, tout cela. Mais lorsque vous lisez Apocalypse, ça veut dire donc révélation. Et c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs, la fin de l'histoire, c'est une plus grande révélation de la plénitude du Christ. Amen. Et ça doit, je dirais, nous saisir nos cœurs parce que Jean, sur l'île de Patmos, a eu la vision de Jésus glorifié, souverain des rois de la terre, Alpha et l'Oméga. Amen. Et combien nous devons comprendre que l'apôtre Jean, lorsqu'il était sur l'île de Patmos, il a écrit, eh bien, il y a eu cette inspiration de l'Esprit pour justement ces périodes de tribulation, mais pas simplement pour la fin des temps, mais pour tous ceux et celles qui allaient entrer, je dirais, dans la persécution et dans le martyre. Hein. Et combien nous voyons que le but de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ et c'est la victoire de l'agneau. Amen. Dis à ton voisin, le but de l'Apocalypse, c'est la révélation de Christ et la victoire de l'agneau. Amen. Et ceux et celles qui, à l'amphithéâtre des Trois Gaules, eh bien, avaient la révélation du Christ, eh bien, ils entraient dans cette perspective céleste, dans cette perspective aussi de la gloire de Dieu. Amen. Et la fin de l'histoire, c'est dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, celui qui, le monde s'appelle le fidèle et le véritable. Il juge et combat avec justice. » Ses yeux sont une flamme de feu, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes, il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui, il est vêtu d'un manteau trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur, et de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations, il est fera paître avec un sceptre de fer, il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Écoutez bien, il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Amen. Et le premier point que j'aimerais aborder, c'est ça. Soyons dans cette espérance. Alors c'est vrai qu'après les tribulations, les persécutions, Armageddon, il y a les noces de l'agneau, il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il y a la nouvelle Jérusalem qui descend, amen, il y a la guérison des nations. Et donc, très important de comprendre, d'avoir cette perspective pour pouvoir traverser toutes sortes d'épreuves, sachant que nous avons besoin et j'ai besoin d'une plus grande révélation de Jésus-Christ, amen. Dans sa plénitude, dans son triomphe et la victoire de l'agneau. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que dit la Bible sur ces événements ? Et bien sûr, vous connaissez tous que Israël, c'est l'horloge prophétique de Dieu. Et nous savons qu'il y a, je dirais, sur l'Église, un voile concernant l'élection d'Israël. Mais sur Israël, il y a un voile concernant, eh bien, Yeshua, le Messie. Amen. Et Dieu, je crois, d'ailleurs dans Ésaïe, je crois 25, il nous est dit que sur la montagne, il va déchirer les voiles. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la révélation qui vient de la parole de Dieu qui est inspirée. Amen. Amen, frères et sœurs. Et donc, il est très important de comprendre la mission, la vision d'en haut. Monte ici et je te ferai voir ce qu'il va arriver dans la suite. Donc, on a besoin d'un éclairage, d'une compréhension spirituelle. La mission du peuple d'Israël, eh bien, c'est témoin du Dieu unique face à l'idolâtrie des autres nations. C'est pourquoi Jérusalem, Israël, sera une pierre pesante pour toutes les nations. Parce qu'au travers d'eux, eh bien, Dieu veut se manifester et que ce peuple soit témoin du Dieu unique. Être au service de Dieu, recevoir les révélations divines, en être les dépositaires et aussi être le canal humain de la venue du Messie. Il n'y a pas de supériorité d'Israël, mais il y a une primauté d'Israël. Premièrement les Juifs, deuxièmement les Grecs. Voyez ? Amen. Et tout cela, pour moi, c'était complètement caché à cause de différentes attitudes complètement déséquilibrées. Et moi, ça m'a repoussé. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin d'enseignement, j'ai eu besoin de révélation. Et frères et sœurs, il y a quelque chose qu'il faut très comprendre. Parce que sinon, vous allez écouter les choses d'une manière sentimentale ou d'une manière politique. Mais la Bible nous dit, et on n'a pas le temps de développer ça, mais il nous est dit qu'Israël sera en bénédiction sur toute la terre. Amen. Et il y a trois choses qu'il faut comprendre. La réalité du peuple juif, les descendants de Jacob. Il y a la réalité de la nation d'Israël, donc qui est née en 48. Et il y a la réalité du mystère d'Israël. Amen. Et donc, il ne faut pas mélanger ces choses, mais il faut comprendre, avoir cette compréhension spirituelle. Jésus, écoutez bien, est à la fois le roi des Juifs et il est la tête de l'Église. Vous comprenez ça? Comment vous arrivez à... Jésus est le fils de Dieu, il est le fils de l'homme et il est le fils de David. Amen. Jésus est le centre de toute chose. Ce n'est pas Israël. C'est Jésus qui est le centre de toute chose. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Toutes choses ont été créées pour lui, par lui. Amen. Et nous voyons cette plénitude de Christ. Donc, très important de comprendre quel est, voyez, le mystère d'Israël. Et attention, frères et sœurs, et on parle, vous avez entendu parler aux médias de la guerre de communication, toutes sortes de manipulations, de mensonges, de double langage. Et c'est pourquoi il ne faut pas aborder l'actualité avec d'une manière sentimentale ou politique, être pro-israélien, pro-palestinien, mais nous devons, je dirais, avoir les bons fondements pour comprendre, pour avoir une compréhension spirituelle. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a amené avec différents contacts. Je suis en relation avec Odos, un milieu, donc Alain Caron, avec David Damien, Watchmen for the Nation, avec Éric Péchin, Zone Prophétique, Melchisedec, avec Fabienne Ponce et d'autres. Il y a différents réseaux, Tikkun. Et Paris, tout est possible aussi. Il y avait une rencontre. J'ai été réellement béni parce qu'au travers de tous ces réseaux qui sont en train de se connecter les uns les autres, je dirais, il y a une compréhension spirituelle des temps que nous vivons. Discernement des temps, compréhension des événements et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous savez, donc, on l'a entendu, il y a eu l'attaque du Hamas. Eh bien, le 7 octobre, jour de la Shema Torah, la joie de la Torah, fin de la fête des tabernacles. Et ici, eh bien, nous sommes rentrés, eh bien, dans cette fête des tabernacles, et on ne savait pas que le samedi 7 octobre, il y aurait eu cette guerre 50 ans après la guerre du Kippour en 73. Donc il y a une bataille pour Jérusalem. Amen. Il y a une bataille pour Israël. Et j'ai un ami juif qui fait partie d'ailleurs de l'église de Villeurbanne-Cussé qui me disait, Alain, eh bien, il y a d'abord une bataille pour Israël, ensuite il y a une persécution, un génocide des Arméniens, ensuite il y a 360 millions de chrétiens qui sont persécutés à cause de la foi, c'est dans Portes Ouvertes qui nous dit ça, et ensuite il y a la notion, eh bien, des chrétiens. Et Antoine nous a parlé justement de cette confrontation avec l'islam. Le but du Hamas, qui veut dire en hébreu violence, c'est la destruction d'Israël. Vous voyez, on trouve 1000 fois le mot Jérusalem dans la Bible, on ne trouve aucune fois le mot Jérusalem dans le Coran. Et donc, il y a cette bataille spirituelle qui est là. Et nous sommes au cœur d'une guerre spirituelle contre le peuple juif, dépositaire des promesses, des alliances, et aussi contre les chrétiens. Et c'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, il s'agit d'une guerre spirituelle. Et nous allons voir dans notre action, versets 10 à 13, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce temps de louange, nous sommes fortifiés dans le Seigneur. Amen. C'est lui qui est le Dieu, notre salut, qui nous tient. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des principautés. Et il y a des puissances spirituelles, des principautés. Et si vous comprenez la réalité du combat spirituel, eh bien, d'abord, il y a des puissances spirituelles dans le deuxième ciel, et ensuite, il y a un écho sur la terre. C'est pourquoi il y a des ébranlements. C'est pourquoi il nous faut avoir des yeux spirituels pour comprendre les réalités célestes. Et... Car c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il y a des principautés, il y a des pouvoirs, il y a des dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Et tout à l'heure, je parlerai justement de ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de rassembler les restes, le reste dans toutes les nations pour les unir. Parce que plus nous sommes dans l'unité, ça c'est vrai dans nos vies, c'est vrai dans ton couple, ça c'est vrai dans ta famille, ça c'est vrai dans l'église, ça c'est vrai dans l'église de la ville, dans l'église de la nation et des nations, parce que Dieu aime les nations. Alors il y a une plus grande autorité spirituelle qui est libérée. Le troisième point, c'est embrasser le Fils. Embrassons le Fils. Amen. Et le psaume 2, hein, pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens, rejetons loin de nous de leurs chaînes. Et il nous est dit ceci, c'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Amen. Montagne de Sion. Jérusalem, je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Amen. Et tout à l'heure, nous allons parler de cela. Et il les brisera avec un sceptre de fer. Hein. Et donc, maintenant, roi, ayez du discernement, recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant et embrassez le Fils. Amen. Qui a été oint sur la montagne de Sion. C'est-à-dire, nous sommes dans des temps tellement chaotiques, troublés, révélation de Jésus-Christ, eh bien, il nous faut embrasser le Fils. Il nous faut avoir une plus grande union avec le Fils. Et nous savons que la réalité est en Christ et que Christ est en nous. Amen. Donc j'ai cette unité, j'embrasse le Christ, je me nourris du Christ, amen. Je me nourris du Christ, frères et sœurs, amen. Et il nous est parlé justement de ce temps de proclamation de la réalité de Dieu, embrasser le Christ. Le troisième, quatrième point, c'est la bénédiction d'Abraham. Amen. Galates 3:29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse de Dieu. Amen. Nous sommes héritiers selon la promesse de Dieu. Et nous voyons qu'Abraham, dans Genèse 12, a eu cette bénédiction, lui qui était un idolâtre. Il partit sans savoir où il allait, mais il cherchait une cité. Amen, vous lisez ça dans Hébreux. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Amen. Quelque chose qui m'a en tout cas touché, c'est que le mot Abraham veut dire père élevé. Et le mot Abraham veut dire père d'une multitude. Plus vous approchez de Dieu, de la réalité de Dieu, des promesses de Dieu, de cette alliance avec Dieu, et bien plus il y a un processus de vie en vous et vous pouvez, Dieu se souvient, comme disait, Dieu se souvient de nous, il bénira et il multipliera. Amen. Donc il y a cette semence d'Abraham en nous, hein, cette semence d'Abraham en nous. Abraham, et il nous est dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudira, celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et face, je ne sais pas si vous avez vu, le 7 octobre, tout le monde était pour Israël. Et 3 semaines après, il y a des discours un peu politiques, tout cela, parce qu'il y a toutes sortes, bien sûr, de complications par rapport aux otages et toutes ces choses-là. Mais frères et sœurs, nous savons que ceux qui bénissent Israël vont être bénis. Amen. Donc il est très important, et je crois, nous le voyons au niveau des nations, nous le voyons, je crois, au niveau des églises, nous le voyons au niveau des différents ministères, eh bien, nous sommes dans un temps de positionnement. Amen. Et faites la différence entre le peuple juif, la nation d'Israël, et aussi le mystère d'Israël. Amen. Et là, nous pouvons rentrer dans la sagesse de Dieu. Amen. Et Abraham a reçu la promesse d'une bénédiction, une postérité d'une terre. Donc dans Genèse 17, vous voyez le changement Abraham en Abraham au travers de l'alliance, au travers de la circoncision. Dieu dit à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarah, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais tu l'appelleras Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations, des rois de plusieurs peuples sortiront. Abraham tomba face contre terre, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils de 100 ans, Sarah âgée de 90 ans accoucherait-elle? Puis Abraham dit, qu'Ismaël vive devant ta face. Il réalise qu'il y a un fils avant. Il dit, ok, je comprends qu'Isaac va être le fils de la promesse par lequel tu vas manifester ton alliance, mais qu'est-ce qu'il en est d'Ismaël? Et là, il nous est dit ceci, Dieu lui dit, certainement ta femme, Sarah, va te donner un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et avec sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je l'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'extrême, il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Il y a, chers amis, une bénédiction pour Ismaël. Amen. Il y a une bénédiction pour Israël, Israël en bénédiction pour les nations, et il y a une bénédiction pour Ismaël. Bénédiction sur Isaac et sur Ismaël. Et un jour, parce que il y avait énormément de confusion, je suis allé dans un séminaire au Chêne de Mamré. Il y avait Fabienne, il y avait Robert Blancou, il y avait Jacques Charaboutic. Et j'ai toujours noté Robert Blancou qui disait ceci concernant les alliances avec Ruben Berger. Il disait attention, par rapport à. Parce qu'à cause de la révélation, eh bien, il y a un orgueil spirituel qui vient. Moi, je connais l'hébreu. Moi, je peux vous dire toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Et il disait attention à l'orgueil spirituel. Et je ne sais pas si vous réalisez, nous sommes là le dimanche 29 octobre et nous adorons le Seigneur et nous avons la révélation de ces choses. Oh, je ne sais pas si... Quelle grâce! On connaît la fin, amen! On connaît la fin, on connaît aussi les différentes étapes. Attention aussi au reniement de la Trinité, à le fait de judaïser, il faut mettre la kippa, le chandelier, le pain azim, tout cela. Attention à l'idolâtrie, écoutez bien ceci, attention à l'idolâtrie d'Israël et le rejet des autres nations, notamment arabes. S'il y a un antisémitisme qui monte, 950 actes antisémites depuis le 7 octobre, attention frères et sœurs dans nos cœurs au racisme, concernant notamment les musulmans. Et donc, il est très important d'avoir cette compréhension spirituelle, voyez. Il y a eu les accords d'Abraham sous l'impulsion de l'administration Trump en septembre 2020. Les accords d'Abraham prévoient la normalisation des rapports diplomatiques entre Israël, les Émirats arabes unis d'une part, et Israël, le Bahreïn d'autre part. Les accords concernent la normalisation, rapports avec le Maroc, le Soudan ont été signés. L'Égypte et la Jordanie avaient déjà normalisé avec Israël. Et au moment où il y avait des discussions concernant les accords d'Abraham avec l'Arabie Saoudite, il y a eu un arrêt à cause de l'attaque du Hamas. Et l'Arabie Saoudite, c'est là où se trouvent les lieux saints de l'islam, la Mecque, Médine. Et donc, il y a des enjeux spirituels. Nous sommes au cœur d'un conflit spirituel. Amen. D'un conflit. Et nous devons avoir la juste la connaissance de la pensée de Dieu. Amen. Il y a un conflit. Et j'entendais un témoignage de la fille spirituelle de Asher Intrater. Elle avait en même temps, elle parle, Asher parle de cette nature de l'agneau et de la compassion. Quelle différence entre une mère juive qui a perdu ses enfants et une mère palestinienne qui a perdu ses enfants. C'est quoi la différence? Elle verse des larmes. Leur cœur est brisé. Et vous savez que 80% des Palestiniens n'aiment pas le Hamas. Hein. Ils sont, et j'entendais un journaliste qui disait il y a trois types d'otages dans la bande de Gaza. Il y a les otages, eh bien, qui ont été, des juifs qui ont été pris, hein, des binationaux tout là, qui ont été pris. Il y a aussi l'otage des ONG. Attention à ce que les ONG disent, parce qu'ils sont soumis, voyez, la Croix-Rouge, tout cela. Et vous avez aussi les otages palestiniens au niveau donc, de ces choses. C'est pour ça que c'est tellement compliqué. Et cette sœur, elle avait de la compassion, mais en même temps, elle avait de la colère contre le Hamas, contre tout cela. Et à un moment donné, elle dit, Seigneur, j'arrive pas à gérer ça. La compassion, la colère, la vengeance, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'attention, ils sont dans une guerre, un champ de bataille, hein, c'est pas, vous voyez. Et le Saint-Esprit vient et dit à cette sœur qui s'appelle Sarah, chante, écoute de la louange en arabe. Mon âme secrète, c'est que tu écoutes de la louange en arabe. Et elle a pu justement gérer cette pression, cette tension. Et combien, frères et sœurs, nous devons réellement veiller sur nos cœurs. Amen. Et avoir une juste vision au cœur d'un conflit. La bénédiction et l'autre point, c'est veillons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous avons vu discernement des temps, nous avons vu la compréhension des événements. Et là, nous essayons de voir veillons et prions. Amen. Je vous dis, frères et sœurs, veillons et prions. Il y a la révélation des temps de la fin, temps difficiles de Noé, de Lot, tribulation, persécution, violence, et bien dépravation spirituelle. Prions pour que le Moyen-Orient, mais pour la France, et aussi pour les autorités. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 5, j'exhorte donc en tout premier à faire des requêtes, prières, intercessions, action de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure. Ça m'arrive d'être entre 3 et 4 heures du matin réveillé par l'esprit et je me suis levé. Tout d'un coup, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, tu dois prier pour le gouvernement français. Quels que soient nos avis politiques, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et je dis, Seigneur, mais comment prier? Et le Seigneur me dit, tu vois Daniel. Daniel, c'était un homme de foi, c'est un homme de prière, c'est un homme prophétique. Et il a pu prier et manifester devant les réalités de Babylone, de sorcellerie, d'idolâtrie. Il a prié le Dieu des cieux. Amen. Écoutez bien, celui qui change les temps et les circonstances, celui qui renverse les rois et qui en établit d'autres. Et je peux vous dire que nous sommes dans un temps charnière où Dieu veut changer, voyez, amener son autorité spirituelle, l'autorité de l'Ecclésia, l'autorité des nations qui connaissent l'Éternel. Amen. Et qui prennent, voyez, en charge, je dirais, dans l'intercession, non seulement l'intercession, mais dans la sagesse, dans la conduite, et aussi l'Église est toujours, on n'est pas là pour dominer, mais on est là pour influencer et avoir un caractère, voyez, de prophétique, voyez. Sachez une chose, écoutez bien, pourquoi vous devez faire ça en position supérieure? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Il y a eu un sondage, 75% des Français ont peur d'une guerre civile en France. Nous devons prier pour pouvoir vivre notre piété et en toute tranquillité. Voyez, cela est bon, agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen, frères et sœurs, prions, moi je peux vous assurer, priez quand vous rentrez dans un magasin, priez lorsque vous prenez des transports, priez et que toutes sortes de puissances spirituelles mauvaises, de meurtres soient brisées dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors un truc, je vais vous dire ça. J'aime bien les prières, Seigneur, nous lions les princes de l'islam, surtout faites pas ça. Mais vivez votre autorité spirituelle déjà dans votre famille, dans votre quartier, dans vos lotissements, dans vos allées et venues par rapport au travail, tout cela, parce qu'on voit des alertes à la bombe dans les aéroports, dans les écoles, collèges, lycées, universités, lieux de culte, les grands magasins, les métros. Vous savez qu'on fait partie de la Fédération protestante de France. Il y a tout un plan anti-vigie pirate dans l'église, hein. Il faudrait peut-être qu'on s'intéresse à ça. Si quelqu'un rentre là, amen, une chose, quand vous êtes agressé comme ça, parlez en langue très fort. Vous allez paralyser les puissances spirituelles. Amen. Et donc, que chacun se sente concerné, ne pas nous soumettre à la crainte, mais marchons par l'esprit et par la foi. Amen. Chaque Israélien actuellement est concerné par la guerre. Il y a un fils, il y a une fille, il y a une petite fille, un neveu au front. Et frères et sœurs, je peux vous assurer, nous devons veiller et prier. Amen. Nous devons agir dans la réalité du monde spirituel. Amen. Et ainsi amener cette réalité d'un mouvement de prière pour décréter. Et lorsque je suis en lien avec ces différents réseaux de prière, il y a quelque chose qui ressort. C'est le temps de prier avec la parole de Dieu. C'est le temps de décréter la parole de Dieu. C'est le temps de proclamer la parole de Dieu. Amen. Et si tu ne sais pas quoi prier, laisse le Saint-Esprit prier en toi. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, je vous lance un défi. Le temps que vous passez pour connaître l'actualité terrestre, vous passez dans l'actualité céleste. Il faut être. Quelqu'un me disait, il faut être au courant de tout. Oui, oui. Mais une fois que tu es au courant, maintenant tu te mets sur les genoux et tu pries. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour différents déplacements, tout cela pour notre ville. Et vous savez, je vais vous le dire, ici, notre héritage, Lyon, moi je sais que Dieu m'a envoyé vers Lyon. Amen. Mon héritage, c'est Lyon. Amen. Alors bien sûr, je peux prier pour Marseille ou pour Bordeaux. Amen. Mes frères et sœurs, exerçons notre autorité spirituelle devant notre porte. Amen. C'est la stratégie de Néhémie, cela, de devant ta famille, devant la porte. Amen. Et donc, il y a aussi dans différents milieux que je côtoie, il y a prions pour un réveil parmi les Juifs qui reconnaissent le Messie Yeshua. Ce sont des jeunes de 19, 20, 21 ans. Il y a un entraînement, mais de plus en plus, ces jeunes sont, vous voyez, avec cette culture occidentale, tout cela, et ils n'ont pas la réalité de la guerre, de la véritable guerre. Et plusieurs relisent la Torah. Plusieurs reviennent à la Torah pour invoquer le Dieu d'Israël. Amen. Et plusieurs disent, eh bien, qu'il y a un réveil, eh bien, parmi les Juifs qui relisent. Voyez, là, un jour, il y a une famille qui est allée à Tel Aviv. Il a cru que, comme dirait un autre ami, oui, Israël, c'est une terre sainte, mais les gens qui y habitent, ce ne sont pas des saints. Ils se sont retrouvés en plein milieu de la Gay Pride à Tel Aviv. Regardez ce qui s'est passé, eh bien, dans le désert où il y avait une rave party. Voyez. C'est-à-dire qu'il y a toutes des puissances spirituelles qui sont là, et quand, j'ai toute une étude sur le retour des dieux, c'est-à-dire que quand on abandonne l'éternel, il y a Baal, le maître, le protecteur, l'État, tout cela qui vient, il y a tout le domaine de la finance, tout ça, il y a le domaine de Moloch, nous donnons nos enfants, eh bien, au travers de l'avortement et différents autres, le suicide assisté, tout cela, et il y a aussi Astarté au niveau de la manipulation, dépravation sexuelle. Donc retournons à l'éternel, prions, venez, retournons à l'éternel, car il a déchiré, Osée 6:1. Mais il nous guérira, il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, Osée 6:3, cherchons à connaître l'Éternel. Et il y a aussi non seulement un réveil parmi les Juifs, mais il y a aussi, je le crois, un réveil parmi les musulmans. Amen. Hier, je recevais de la part de mon ami Salah Mokrani, vous savez combien il y a de mosquées dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, 600 mosquées. Au Minguette, vous avez 4 mosquées. Et là, il était avec son thé, son café, avec un autre frère au Minguette hier matin, il dit, Alain, je me sens seul. Ça fait 20 ans qu'il s'aime, il n'a pas vu une personne se convertir. Et il m'écrivait, il me dit, Alain, et nous avons imposé les mains à ce ministère parce que nous croyons avec Jean-Marc Potenti, Pascal Bonnaz, pour que dans le nom de Jésus, il y ait des ouvertures qui se fassent, amen. Et que ces musulmans aient la révélation de Jésus-Christ. C'est Liliane qui m'a envoyé quelqu'un du Hamas qui a rencontré Jésus-Christ et qui a été complètement, je dirais, retourné par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Donc il y a un réveil. Eh bien, le voile est déchiré sur le peuple juif concernant Yeshua le Messie, mais aussi sur le peuple musulman qui est trompé par toutes sortes de théologies, tout cela. Amen. Alors, il y a aussi, ah, ça, il faut que je vous le dise. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre « Sur la brèche » de Rils Owens. C'est la saisissante histoire de Rils Owens, un mineur du Pays de Galles qui a vécu de 1879 à 1950 et qui a cru que la prière pouvait changer le cours des événements. Et il s'est tenu contre le nazisme. Voyez, un homme avec une équipe sur la brèche. Amen. 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 Et j'entendrai toujours lorsque j'ai lu ce bouquin, « Viens Saint-Esprit, entre en moi !» Le Saint-Esprit lui dit, « Tu as, si je rentre, toi tu sors. » Je te donne 6 heures. Je reviens. Si je rentre, toi tu sors. Excusez-moi, on est tellement plein de nous-mêmes. Et nous devons rentrer dans cette réalité. Alors, le 6e point, c'est levons-nous et brillons. Amen. Levons-nous et brillons, frères et sœurs. Pas simplement prier, mais que nous devons prier au travers de notre témoignage, au travers de nos œuvres. Vous voyez, Denis Peacock, j'ai noté ça, ça fait au moins 15 ans qu'il disait ça, la chute du monde occidental, perte de notre héritage chrétien, nos valeurs chrétiennes, vous voyez, ils n'ont pas voulu mettre ça dans la Constitution européenne, perte de notre héritage chrétien, nos valeurs chrétiennes, et il y a eu le viol de l'Europe, notamment par l'islam et par les idéologies libérales, LGBT, wokisme, transhumanisme. Il y a aussi, disait, au travers de la force des médias, guerre dans la communication, au travers des médias, films, chants, musique, livres, manipulation médiatique qui construit la pensée unique et le règne de l'Antichrist. Et le 3e point, c'est le pouvoir des minorités qui contrôlent la majorité. C'est pourquoi les gouvernements ont peur des référendums, les amis. Et à cause de ces pertes des valeurs, à cause de la puissance des médias, de ces lobbies, eh bien, peu à peu, eh bien, il y a un écroulement de l'Europe. Amen. Mais je crois, frères et sœurs, dans la puissance de l'évangile du royaume. Amen. Et lorsque je me suis converti à l'âge de 15 ans, je me suis, voyez, je me suis nourri des cassettes de John Ortiz concernant transformation. On voyait des stades entiers remplis de chrétiens. On voyait non seulement la croissance de l'Église en Colombie, en Ouganda, tout cela, et aussi la transformation des villes, la criminologie, tout cela. Et je crois, frères et sœurs, dans la puissance de la transformation de l'Évangile. Amen. Dans nos vies individuelles, mais aussi dans la transformation de villes, au travers de la valeur, au travers de la valeur, des valeurs chrétiennes. Et vous savez, l'histoire de la transformation, eh bien, la puissance de l'évangile du royaume, ce n'est pas l'évangile du salut, l'évangile du royaume, c'est transformer des vies individuelles, sortir des villes de la pauvreté et bâtir des nations. Afin que les nations, afin qu'elles soient libres et non plus esclaves, justes et non corrompues, compatissantes et non cruelles. Et je peux vous dire, d'une manière prophétique, que Dieu est en train de saisir des Daniel, des Joseph, des Esther, des Josué. Et nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu. Et nous disons, nous allons nous lever. Et nous allons, au nom de l'Éternel des armées, vous puissances idéologiques qui, je dirais, qui renversaient toutes sortes de valeurs chrétiennes, eh bien, il y a une histoire puissante, frères et sœurs. Et je crois dans la puissance de transformation de la ville de Lyon. Alors que je priais, je dis, Seigneur, moi je vais être l'homme de tes projets. Je vais être comme David, eh bien celui qui servit au projet de Dieu dans sa génération. Après, il a été enseveli avec ses pères, je ne sais pas quand ça sera. Mes frères et sœurs, je sais une chose, c'est que je veux voir la gloire de Dieu dans cette ville. Et je la vois au travers du CNEF 69, au travers de la jeunesse, au travers du pôle social avec Luc Maroni en octobre 2024. Je vois la réalité du corps de Christ qui est en train. Et le 16 février, nous allons faire une nuit de prière avec plus de 60 à 70 leaders ici pour prier, pour prier, pour prier pour la ville, pour prier. Parce que nous sommes co-héritiers dans le même champ et ces ouvriers doivent être connectés, se connaissent, se reconnaissent et exercer leur autorité spirituelle. Amen. Et un jour, Dieu me dit ceci, Ézéchiel chapitre 48, verset 40, je crois à la fin, le nom de la ville sera l'Éternel Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se convertir, mais je peux vous assurer, ils auront la connaissance de l'Éternel au milieu de nous. Amen. Au travers de quoi? Au travers de l'Ecclésia. Au travers, eh bien, d'hommes et de femmes qui rentrent, eh bien, qui, voyez, qui ne jouent plus à l'Église, mais qui et l'Église, eh bien, de la ville qui est composée de différentes communautés chrétiennes. Voyez, l'histoire commence avec un homme, une femme, un mariage, Adama et Ève. Et la famille, le bloc et le fondement de la société, elle se termine avec un homme, le Christ, le second Adam, une femme, l'épouse de Christ, les noces de l'agneau et les noces, eh bien, le changement du cosmos. Amen. Et je crois, frères et sœurs, que nous devons briller au travers de nos vies, de notre attitude, notre témoignage et au travers des œuvres de compassion. Les hommes verront les bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se convertir, mais ils auront une connaissance de l'Éternel. Comme Nebuchadnezzar qui a dit, je sais une chose, c'est que ton Dieu est le Dieu des cieux. Amen, ton Dieu est le Dieu des cieux. Et je termine par, béni soit celui qui vient. Amen. Béni soit celui qui vient. Et dans Matthieu chapitre 21, verset 9, les foules précédées suivaient Jésus en criant, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Matthieu 21, verset 9. Ça, c'est la première venue, victime expiatoire. Tout est accompli, comme nous l'a dit si bien Marilyn. Mais dans le même évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 23, verset 37 à 39, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler ces œuvres d'unité, frères et sœurs? Tes enfants, comme une poule, rassemblent ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est pourquoi votre maison vous est laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus, Jésus. Désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est venu une première fois, il a pleuré sur Jérusalem, il est entré dans le temple, il a tout envoyé, toute la maison de trafic. Ma maison sera la maison de mon Père, une maison de prière. Et là, les enfants se sont... Il y a eu des guérisons des boiteux et des aveugles. Il y a eu une maison de louange, frères et sœurs. Et de la même manière, alors que nous disons, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, alors notre maison sera remplie. Ne vous faites aucun problème sur les chaises vides, parce que ces chaises vont être remplies. Alléluia, ça c'est mon espérance. Parce qu'il y a une perspective, une compréhension, frères et sœurs. Amen. Amen, frères et sœurs. Et concernant le retour, deuxième venue, retour en gloire, établissement du royaume, il y a des différentes approches sont possibles. La première approche, c'est l'approche classique, amillénariste, primillénariste, historique, dispensationaliste, c'est notre courant au niveau pentecôtiste, post-millénariste. Et quand on parle d'eschatologie, trop souvent, ce sont les quatre écoles classiques qui ont l'attention concentrée des chrétiens. Mais ayons cette vision, une approche du royaume de Dieu qui vient, qui est déjà là. L'heure vient, mais elle est déjà venue. Amen. Et donc, dans cette œuvre, dans cette vision du royaume de Dieu, cette vision consiste à cultiver l'espérance dans le retour de Jésus et non une crainte de ne pas être enlevé. On nous amène dans une déresponsabilisation ou dans une fuite. Notre rôle, c'est pas d'établir le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu va venir, l'établissement, quand Jésus reviendra, mais le Seigneur nous demande de l'incarner, de le proclamer, l'incarner, le manifester. Amen. Et on termine, frères et sœurs, et je vous invite à réellement la prière. Amen. Lorsque je vois certaines vidéos, départ imminent, moi je dis, il y a du travail imminent à faire. Transformation des familles, transformation de l'héritage, de nos villes, de nos quartiers, de nos propres familles, voyez. Donc une espérance ultime de la gloire de Dieu, l'aboutissement du projet rédempteur qui produit une transformation globale de l'individu, mais non seulement de l'individu, mais aussi des institutions. Amen. Nous sommes là comme le sel et la lumière du monde. Et Dieu va susciter. Je vous invite à vous lever maintenant. Alors que Romain, tu prépares un chant. Alléluia. Je vous invite à prier pendant quelques instants. Il y a eu beaucoup de choses. Nous sommes au cœur d'un conflit. Nous avons vu les différents points. Alléluia. Discernement des temps, compréhension des événements. L'action, c'est veiller, prier. C'est lève-toi, eh bien, et brille dans le nom de Jésus. Et je crois qu'alors que, eh bien, j'ensemence vos cœurs par la semence du royaume. Vous savez, dans la Matthieu 13, il nous est dit qu'il y a l'ivraie qui pousse. Et le blé qui pousse, et j'ai appris que l'ivraie pousse deux fois plus que l'ivraie, que le blé. Alors Seigneur, je te prie maintenant, priez avec moi, priez avec moi. Alléluia, alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, réveillons-nous frères et sœurs à l'intercession. Lorsque nous verrons des attentats, lorsque nous verrons des écoles, tout cela, il est très important de faire comme Rilso Wells, de faire basculer eh bien toutes sortes, l'issue de toutes sortes de confrontations dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et je vais, maintenant on va envoyer un chant que Nathalie m'a envoyé. J'ai été pendant 15 jours, voilà, dans le jeûne, dans la prière, dans ce que le Seigneur fait. Alors soit vous restez debout, soit assis, mais écoutons les chants, les paroles de ce chant qui sont extraordinaires. On va veiller au volume. J'entends au loin la voix des sentinelles qui prient pour un réveil, et d'une même voix, ils chantent avec allégresse. Notre Dieu vit, il ne dort ni ne sommeille. On va peut-être prendre place comme ça. Restons dans une attitude de prière.
Et d'une même voix, elle chante en allégresse. Notre Dieu vit, il ne dort ni ne sommeille. Écoute les paroles. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle. Et qui dit, ah, si on, ton Dieu règne le salut, ne vient que de lui. Ah, le salut ne vient que de lui. Et j'aime le dire, j'entends au loin la voix des sentinelles qui même ceci. L'Éternel découvre son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations. Toutes les extrémités de l'homme cette Jérusalem, on ne t'appellera plus jamais la ville autrefois délaissée. Aujourd'hui tu es consolé.
Prions tous ensemble.
Il ne dort ni ne sommeille.
Seigneur.
Il ne dort ni
nous avons besoin d'un réveil, d'une réforme, Seigneur.
Oh.
Dans nos mentalités, dans nos conceptions, dans nos fonctionnements.
J'ai même envie de chanter ça.
Koda Baba Chakada.
Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim. Faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils. Hey! Percé jusqu'au bout des mers.